Elsa Massa est membre de l'association Perspicacité à l'île FIV. Fondée en juin 2023, cette organisation intervient dans toute la région. Elle collabore notamment avec le collège Jean Jaurès à l'Homme, en compagnie de Coralie Hamelot, professeure de français au sein de l'établissement. Elles sont venues à la radio nous partager les ateliers philosophiques qu'elles mettent en place avec différentes classes de 3e.
L'objectif, c'est de se rassembler collectivement et de penser ensemble. Donc on va choisir des sujets, soit ils sont proposés par exemple par le collège parce qu'il y a un contexte, ou bien soit ils viennent du groupe. Et l'objectif, c'est d'apprendre à discerner le vrai du faux, repérer les erreurs d'argument, définir ensemble parfois certaines notions, vraiment penser ensemble, sortir de la dispute, comme on peut voir un petit peu partout, et chercher collectivement, de façon vraiment méthodique, avec lenteur, comment on peut séparer le vrai du faux.
Alors concrètement, ça ressemble à quoi un atelier ?
Alors on se met tous en cercle, on est ensemble, on va définir un sujet commun. Et autour de ce sujet commun, déjà, on va prendre le temps, dans un premier temps, de le définir. Parce que souvent, il y a des confusions, des amalgames. Par exemple, quand on va traiter le racisme, c'est un sujet qui revient souvent dans le domaine scolaire. Ben, il va y avoir des amalgames entre racisme, harcèlement, moquerie. Et on ne peut pas réfléchir à un sujet si déjà on ne sait pas de quoi on parle. Une fois qu'on l'a défini, on va prendre le temps de creuser une question. Et là aussi, on va vérifier qu'on n'est pas dogmatique, en fait, qu'on n'est pas déjà très partisan dans ce questionnement. Donc, on va prendre le temps d'identifier les pour et les contre. Donc, on va prendre le temps de regarder si nos raisonnements ils sont fiables. Et ça, ça prend beaucoup, ça prend du temps de la lenteur parce qu'on est dans une urgence. Une urgence sociale, une urgence climatique, on veut vraiment aller vite dans nos modes de réflexion. Et le fait de ralentir, on prend le temps de regarder si ce qu'on pense est plutôt un raccourci et donc faux, ou sinon c'est bien fondé. Et donc c'est un terrain d'exercice principalement.
Vous travaillez avec vraiment une tranche d'âge assez large. Comment justement vous abordez ces termes quand même assez complexes avec un public beaucoup plus jeune ?
La posture qui est principale, c'est de ne jamais devancer le groupe. Donc on s'ajuste tout le temps au groupe, ça veut dire que les ateliers philo, on peut les démarrer dès, en général, la grande section. Quand les enfants, ils ont 5-6 ans, ils commencent déjà à se poser des questions sur la mort. Ils écrasent des petits insectes, alors tout d'un coup, il y a une prise de conscience. Et l'objectif, c'est de ne pas aller plus loin que le groupe et de rester à côté d'eux, mais par contre, d'être bien éclairé sur est-ce que la façon dont on réfléchit est une impasse ou pas. Donc, c'est de se mettre à côté du groupe. Ce qui devient intéressant, c'est quand on est dans la tranche collège, le monde se complexifie. C'est-à-dire au début, les enfants ils vont parler de l'amitié, c'est magnifique. Et puis après arrivent les amitiés toxiques, les faux amis, une certaine forme de complexité. Et c'est intéressant d'aller aussi les accompagner sur comment on pense. Est-ce qu'on peut se tromper ? Est-ce que des idées qu'on peut lire sur les réseaux sociaux peuvent être erronées, partielles ? Et c'est d'interroger tout ça. Donc on prend l'espace de jeu, le terrain de jeu que propose le groupe. Mais il y a des parallèles, bien sûr, qu'on pourra faire tranquillement dans les médias, notamment sur les réseaux sociaux.
Comment est-ce que vous avez eu contact avec l'association Perspicacité ?
Le contact est venu il y a environ 5 ans. Parce que notre question nous, de départ, c'était de travailler sur la laïcité. On cherchait un partenaire... On cherchait à ne pas être un peu dans, entre guillemets, le dogme de la laïcité, mais de faire réfléchir et de s'interroger sur ce que c'était. Au départ, il y avait une autre association dont tu faisais partie, qui nous est arrivée par la mairie, je crois. Et ensuite, on a pris contact avec Elsa et ça s'est très bien passé. Donc, on a gardé Elsa en partenaire, quelle que soit sa structure. Et voilà, donc c'est de cette manière-là qu'est arrivée Elsa dans notre collège.
Cet aspect philosophique, tout ça, comment est-ce qu'il l'accueille ?
Alors, de manière variable. Il y a d'abord une curiosité, parce qu'ils n'ont jamais pratiqué de philo, donc ils sont curieux de savoir ce que c'est. Certains peuvent être sur la réserve au départ, ils sont dans l'observation, ils n'osent pas trop prendre la parole, se positionner. D'autres apprécient beaucoup, et globalement, ils apprécient beaucoup le fait que ce soit oral, qu'il y ait aucune évaluation, qu'il n'y ait aucun jugement, qu'il n'y ait pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau pour eux, parce que dans le domaine scolaire, il y a toujours une sorte d'attendu, vrai, faux, et là, on n'est pas du tout dans ça. On est juste en train de s'interroger, est-ce que, oui ou non, c'est un argument valable. Donc déjà, ils doivent s'approprier ça, et puis au fur et à mesure, ils découvrent et ils se lancent. Et quand on fait nos auto-évaluations à la fin, c'est quand même globalement très positif. Et ce qu'ils aiment surtout, c'est d'avoir connaissance de la manière dont pensent leurs camarades sur des sujets qu'ils n'abordent jamais entre eux. Et ils sortent riches de ça et ils sont très contents de ça.
Et c'est quoi un peu les réactions que vous voyez, l'évolution des élèves flagrants que vous pouvez voir après justement ces ateliers?
Alors les évolutions, c'est par exemple l'année dernière, il y a eu des choses possibles qui ne l'auraient pas été s'il n'y avait pas eu d'atelier philo. Par exemple, donc au collège, on a des oraux de brevet à préparer avec des sujets à peu près libres. Et il y avait une jeune fille de troisième qui avait fait intervenir une association sur globalement le consentement, le non-consentement, le viol, etc. Et une personne est intervenue d'une association sur ce sujet. La prof de français qui l'a accompagnée a dit clairement, sans les ateliers philo, on n'aurait pas réussi à avoir une parole sans énormément de jugement et de moquerie. Ça aurait été compliqué qu'ils se positionnent, parce qu'en fait, pendant l'atelier, ils devaient se positionner physiquement en se classant. Est-ce que oui ou non, ils sont pour, contre certaines choses, etc. Et sans ce préalable, elle pense que ça n'aurait vraiment pas fonctionné. Et nous, ça nous aide aussi beaucoup d'une manière disciplinaire dans la préparation du brevet, puisqu'ils apprennent à argumenter. Et le fait de passer à l'oral sans contrainte leur permet d'expérimenter pour ensuite réussir à transposer à l'écrit avec contrainte.
Et donc, vous êtes combien de professeurs à participer à ce projet ?
Alors, on est tous les professeurs de lettres et d'histoire de troisième. On est à un atelier par semaine sur une période d'environ 2 mois.
Est-ce que vous avez en tête vraiment un moment qui vous a touché dans ces ateliers, alors que ce soit l'une et l'autre, qui vous revient en mémoire et qui était vraiment un moment émouvant ?
J'en ai 2-3 là qui viennent. Un moment, c'est un atelier qu'on a fait sur... au départ, les rapports filles-garçons, qui allaient après sur les rapports conjugaux, etc. Une prise de conscience de violence familiale, conjugale vécue par la confrontation aux autres. Et ce moment, et donc après, cet élève qui vient nous voir et qui s'effondre et qui explique plein de choses. Et je pense que, elle, ça l'a aidé à prendre conscience de choses qu'elle vivait et qu'elle nommait pas. D'autres moments, moins tristes, on va dire, dans les émotions, où des élèves s'affrontent, ça monte parce qu'ils sont pas d'accord sur un sujet. C'était notamment des sujets assez liés au communautaire. Et où, par les exemples qu'on apporte, ils se rendent compte qu'ils sont totalement partisans dans leur manière de voir, parce que, en fait, un même acteur peut avoir des pratiques opposées. Enfin, là, c'était vraiment notre sujet sur le Qatar, là, où ils avaient vraiment une vision qui n'était pas du tout celle qu'on apportait après. Et où ça redescend, et après, ils disent « Ok, on est allé trop loin, on s'est emporté parce qu'on est partisans, etc. » Donc, c'est des moments comme ça aussi où il y a des prises de conscience d'accord, je suis vraiment très partisan dans ma manière de voir les choses. Il faut peut-être que je me décentre un peu. Moi, des moments comme ça, j'ai beaucoup aimé. Et après, déverrouiller des ambiances de classe vraiment plombées, c'est aussi des moments importants, je pense.
Quand Coralie les raconte, ça me ravive. Je les vois très bien, je les revis. Il y en a d'autres que j'ai vus dans les rapports filles-garçons, où justement, le premier atelier, j'avais demandé à Coralie de comptabiliser le nombre de prises de parole entre filles et garçons. Et ceux qui ne prenaient la parole sans lever la main, et également le temps. Est-ce que c'était plutôt une intervention courte, furtive, ou est-ce que c'était une prise de parole, une occupation de la prise de parole? Et ensuite, on avait montré aux classes comment ça se passait dans leur classe. Et ça avait permis, comme le disait Coralie, d'un moment donné, nommer parfois certains mécanismes qui avaient dans à toute petite échelle dans la classe, mais peut-être aussi sociétale. Et je me rappelle de filles qui avaient donc du coup pas mal pris la parole en disant « Mais oui, mais en fait, à chaque fois qu'on prend la parole, on est rabaissé, on est moqué. Il y a une occupation du terrain par les garçons qui vont avoir des stratégies, etc., qui font que, ben, à un moment donné, on est invisibilisé. » Et je voyais les enseignantes qui étaient là et qui se disaient « Mais oui, mais finalement, quand finalement je suis en gestion de classe, est-ce que je ne suis pas complice ?» de quelque chose que je n'ai pas vu. Et ça avait été assez intéressant de voir comment, après, la classe repositionne. Est-ce qu'on est d'accord avec ce mode de fonctionnement-là ? Ou est-ce qu'à un moment donné, on définit d'autres règles ?
Ils parlent beaucoup d'eux, finalement, de même leurs usages des réseaux sociaux, de toutes ces choses-là. Et dans notre rapport quotidien, c'est des choses dont on n'a pas connaissance. C'est des choses qu'on voit si on fait un voyage scolaire ou des choses comme ça, parce qu'on est dans un quotidien, mais on n'est pas dans leur quotidien. Donc, eux disent, c'est intéressant de voir ce qu'il y a dans la tête des autres, mais nous, en fait, on voit aussi ce qu'il y a dans leur tête, dans la tête d'une génération. La place que peut prendre un média, un réseau social, un sujet dont on n'a pas connaissance. Et donc, ça nous apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup sur eux et sur leurs préoccupations. Au fur et à mesure des années, on a réussi à vraiment identifier les besoins des élèves, enfin les sujets qu'on voulait vraiment aborder et qui pouvaient aussi améliorer le vivre ensemble, puisque c'est lié à ça aussi nos interventions. Et donc notre sujet phare, c'est devenu quand même l'identité, avec tout ce que ça implique, l'identité, donc l'appartenance, à un âge où c'est très important d'appartenir. Et on a aussi quelque chose contre lequel on doit lutter, c'est vraiment ces groupes fermés, ces groupes d'appartenance, ces groupes parfois communautaires, etc. Et donc, en travaillant cette question de l'identité, on arrive normalement à la fin des ateliers philo à un constat que finalement, on croyait être défini comme ça et qu'on est peut-être beaucoup plus large ou beaucoup plus riche que ce qu'on croyait être. Et donc, cette année, on aimerait le concrétiser par un projet boule à facettes où chacun pourrait produire sa boule à facettes d'une identité multiple et de se dire, voilà, en fait, j'appartiens à ça, j'appartiens à ça, j'appartiens. Donc, on peut vivre ensemble. On a tous des points de convergence. On a tous notre richesse à nous. Il n'y a rien à cacher, finalement. Et on est tous rayonnants, parce que la boule à facettes, ça rayonne. Et donc, l'idée, ce serait voilà, de faire une expo avec toutes ces boules à facettes, d'inviter aussi les parents pour voir leur enfant qui rayonne de multiples facettes. Et de pouvoir circuler comme ça dans cette exposition en les mettant en valeur de toute leur richesse.
Un projet qui sera évidemment organisé pendant les ateliers en compagnie de Elsa. Vous pouvez retrouver l'association Perspicacité aux 4 rues Clovis Hugues à Lillefive. Un reportage réalisé par Chloé Lagnès pour RPL Radio.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.